Alors, Pierre-Yves, Robert Dutton, ancien président de Rona, lance officiellement son livre aujourd'hui, Mise à niveau, qui raconte les circonstances de son départ de Rona, qui a ensuite conduit, bien sûr, à la vente de l'entreprise. Et aujourd'hui, la Caisse de dépôt et placement affirme que ce récit de M. Dutton sur les événements qui ont mené d'abord à son départ de Rona ne correspond pas aux événements et aux faits tels que vécus par la Caisse et ses représentants au fil des ans.
Bon, premièrement, il faut comprendre que Rona, c'est comme un dossier extrêmement, extrêmement sensible au Québec, mais d'un point de vue de la Caisse, si en 2012, pendant des années, votre rendement est nébuleux, ou il n'est pas assez grand, il est sujet à comparaison avec Home Depot ou Lowe's, et on se rend compte que Rona n'atteint pas ce que les autres sont capables de faire, mais la Caisse doit donner du rendement aux déposants. Donc, à un moment donné, on prend la décision et on dit, avec les autres actionnaires, mais on change la direction, mais c'est pas nécessairement la Caisse qui a fait ça. Et la Caisse dit simplement, nous avons fait du mauvais rendement ou du rendement non appréciable avec l'entreprise. Tout ça dans un contexte où, Paul, il y a de la consolidation de marché chez les fournisseurs de matières premières ou de matériaux de construction, tu sais. On a eu BMR qui est rentré, Canac, Patrick Morin, tu sais, chez Marcil, tu sais, tout ça fait en sorte qu'il y a un regroupement de certaines bannières. Et là, il faut produire, puis il faut donner du rendement. Et on disait, écoutez, après la crise, là, on aurait dû voir une amélioration des résultats, et c'était pas le cas. Donc, on dit le rendement était pas assez fort, et on dit à M. Dutton, dans le fond, peut-être qu'on respecte le fait que vous ayez amené l'entreprise à une certaine place, mais vous n'étiez peut-être plus la personne pour l'amener à un autre endroit. Et on sent que c'est ça le point de litige. Puis tu sais, si on regarde Lowe's aujourd'hui, quand ils ont pris la possession de Rona, Paul, ça a changé. Ceux qui sont allés en magasin l'ont vu. Le Rona, l'entrepôt, a été refait, changement de couleur. On a amené un peu ce qu'Home Depot propose, c'est-à-dire de la décoration, des électroménagers. Tu sais, transformer ça en anglais en un one-shop mall des rénovations. Et Lowe's, quand on regarde les états financiers, on se rend compte que, tu sais, pour faire un trimestre de 21 milliards, on fait juste 1,5 milliard de marge. Donc, c'est extrêmement compétitif. Faut faire du volume. Donc, peut-être qu'une époque passée, c'était correct, mais peut-être qu'au Québec, on n'était peut-être pas capable de suivre la parade et de devenir un gros joueur mondial comme les autres. Chose certaine, sur un an, Lowe's a donné un rendement de 45% aux actionnaires. Et il y aura toujours ce litige-là d'investissement Québec, qui a laissé aller l'espèce de rétention qu'il y avait. Mais Paul, tu sais, la Caisse a beau avoir le mandat d'aider au développement économique du Québec, son mandat premier, c'est donner du rendement à ses déposants.
Ben oui. Christian Dubé était-il en conflit d'intérêts, l'un des candidats vedettes maintenant de la CAQ?
Il y a eu une affirmation du Journal de Montréal, après ça, monsieur a répondu. Et quand on regarde ça, Paul, tu sais, la Caisse a mis de l'argent dans l'Human Post. Après ça, Christian Dubé s'amène à la Caisse. Après ça, son épouse devient administratrice. Ben, là, demandé, c'est un couple, oui, mais au niveau de la finance, là, même si elle a fait de l'argent, puis elle a acheté des actions, puis elle a fait un gain lors de la revente, là. Il y a quelque chose qui est un peu fou là-dedans. C'est pas parce que la Caisse a un placement que tout le monde est en conflit d'intérêts. Et là, on dit, Monsieur Dubé aurait dû se retirer de tous les comités où l'Human Post était mentionné. Ben, ceux qui ont déjà travaillé en placement privé savent que on parle de centaines de millions, ou voire des milliards de dollars à la Caisse qui sont en placement privé. Donc, quand on est là-dedans et que parmi les placements, il y en a un, est-ce qu'il est significatif? On dit à la Caisse, écoutez, c'était même pas 10% de possession dans l'Human Post, donc y a-t-il une logique derrière? Et l'autre point, c'est que Mme Perrault, en tant qu'administratrice, c'est normal qu'elle ait des actions, qu'elle prenne part à l'entreprise, parce que pour être un bon gestionnaire d'entreprise, souvent on demande aux gens d'avoir une certaine quantité d'actions. Pourquoi? Ben, pour être capable d'agir en fonction du rendement des actionnaires et du bien-être des actionnaires. Donc, la meilleure façon pour un administrateur d'agir pour le bien des actionnaires, c'est d'être actionnaire. Mmh. Et tout ça donne un gain d'environ 42 000 piastres nets. Mmh. Alors, dans le portefeuille du couple, Paul, 42 000 piastres nets, c'est rien.
Oui. Et M. Dubé s'est défendu en disant que lors de son entrée en poste à la Caisse, il avait immédiatement déclaré ses conflits d'intérêts potentiels par rapport notamment au travail, aux fonctions professionnelles de sa femme.
Oui, parce qu'il faut le dire que monsieur est CPA aussi, est comptable, puis il y a toute notre formation sur le code de déontologie, sur la règle d'indépendance, sur l'apparence de conflit d'intérêts. On est extrêmement sensible à ça. Donc, il y avait une apparence de possible conflit d'intérêts, mais quand on regarde la réalité, Est-ce qu'il y a un enrichissement indu avec une information privilégiée? Ce qui aurait été plus problématique, c'est que, par exemple, si madame avait une information privilégiée, qu'elle avait transmis l'information à monsieur et que lui s'est enrichi de 2-3 millions en faisant une transaction sur le titre, là, on aurait parlé de délit d'initié puis de conflit d'intérêt, mais on n'en est pas là-dedans. Là. On est vraiment dans un article de journal qui était fabriqué pour mettre des faits un après les autres et créer une espèce de oomph au niveau de la nouvelle, mais dans la réalité des faits, le comptable en moi voit pas de problème au niveau de la gouvernance, ce n'est que de la normalité. Faut penser aussi au seuil de signification, c'est-à-dire, est-ce que c'est assez important comme possession ou comme prise de possession au niveau des actions pour créer un problème ou un malaise?
Parlons maintenant de Rise et du kombucha. Il y a peut-être des gens qui se demandent de quoi on parle. C'est quoi le kombucha? C'est une boisson?
Oui, c'est une boisson. Est-ce que Paul t'a déjà bu du kombucha?
Non.
C'est comme une espèce de boisson pétillante, si on veut, qui est des ingrédients naturels, comme une espèce de fermentation, si on veut, et ça se veut aider à la digestion. C'est un peu sucré, mais pas comme une boisson gazeuse ou un jus. C'est vraiment inférieur. Mettons, on peut prendre 31-32 calories par tasse, tu sais. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est voir, c'est une entreprise québécoise avec une boisson qui se veut comme une espèce de thé fermenté, qui est en train d'exporter aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on tente de faire sa place. Et Paul, dans le marché d'aujourd'hui, tu sais, il y a les boissons gazeuses, les eaux pétillantes, les boissons énergétiques, les boissons électroniques comme Gatorade, il y a des thés glacés, des laits, des smoothies, des slush, des cafés glacés, des cold brew. Tout ça fait en sorte que quand tu arrives dans un commerce comme un couche-tard ou une épicerie, l'espace tablette est limité. Et pour faire ta place aux États-Unis, faut que ton produit soit intéressant. Et là, on parle d'un marché potentiel de plusieurs centaines de millions. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir une entreprise d'ici traverser la frontière et offrir ça ailleurs. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que l'humain a besoin d'eau, mais on est en train d'augmenter la diversité de tout ce qui peut se boire, tout ce qui peut s'offrir. Et là, il y aura un moment donné de la consolidation. Est-ce que des entreprises comme ça se feront racheter par des multinationales comme Coca-Cola ou Pepsi ou d'autres entreprises qui sont dans les boissons et qui ont un réseau de distribution et qui peuvent offrir aux épiciers, aux dépanneurs, de l'espace tablette en masse et donner plus de valeur. Comme Couche-Tard. Couche-Tard se fait payer littéralement pour mettre des produits sur les tablettes. Alors, quand t'es un joueur comme ça, même si t'es aidé par un fonds d'investissement, est-ce que tu peux aller faire ta place sur les marchés américains? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines années.
Merci, Pierre-Yves.